Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 23 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Fendoel et je suis accompagné de Paul Gara. Bonjour Paul Gara.
Bonjour Fendoel.
Nous accueillons en exclusivité un éditeur de jeux de rôle en la personne de Mathieu Saintoux qui nous présente donc sa maison d'édition Arcane Asylum.
Bonjour à tous.
Est-ce que je prononce bien Arcane Asylum
ou... Exactement, à l'anglaise.
Parfait.
On va débuter par un fil rouge cannois spécial, donc avec des petites questions qu'on pose à tous nos invités.
Bien sûr.
Donc pour toi, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma ?
Jeu, évidemment. Jeu. Je suis niçois, donc Cannes, ça ne résonne que du jeu. On évite la période ici quand il y a trop de cinéma.
Plutôt bière ou champagne ?
Bière.
Plutôt camping ou Martinez ?
Martinez.
Plutôt off ou plutôt dodo ?
Off, malheureusement.
Plutôt salon ou plutôt festival ?
Festival.
Plutôt pro ou plutôt perso ?
Beaucoup trop de pro. J'aimerais bien un peu plus de perso.
On a terminé le fil rouge. Alors, Arcane Asylum, c'est une maison d'édition relativement ancienne, je pense.
Oui, on a 6 ans d'existence déjà. Et elle-même est une sorte, entre guillemets, de société fille d'une... ma première boîte qui s'appelait Bibliothèque Interdite, où on éditait déjà du jeu de rôle. Donc voilà, ça fait bien longtemps qu'on est dans le milieu.
Alors, vous avez plusieurs grandes gammes, on va dire, qui sont réputées. Peut-être on peut parler de Vampire.
Oui, le Monde des Ténèbres en général, en fait. Donc ouais. les anciennes éditions, que ce soit Vampire, la Mascarade, Loup-Garou, l'Apocalypse, L'Âge des Ténèbres et bientôt Mage qui va arriver. Ça reste effectivement le cœur du catalogue. C'est là-dessus qu'on a monté l'Arcane Asylum. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec White Wolf et il y a eu de nombreuses mésaventures qu'on fait que ça a été très compliqué de les joindre pendant de longues années jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de renaissance avec Onyxpass et maintenant avec White Wolf. Donc voilà, ça c'est la base de notre catalogue et puis depuis qu'on l'a étoffé, quoi.
Et là, vous avez une sortie assez importante avec le The Witcher.
Exactement.
Donc, on rappelle que The Witcher, initialement, c'est un personnage d'un roman d'un auteur polonais qui s'appelle Andrzej Sapkowski, qui est très connu, la saga du sorceleur.
Tout à fait. C'est le Seigneur des Anneaux.
Voilà, qui a été décliné en jeu vidéo aussi très connu, dont le dernier opus qui a eu un énorme succès.
Oui, tout à fait.
Et qui est reconnu comme étant un jeu vraiment voilà dans les jeux à monde ouvert avec quête très qui a été très remarquée pour des scénarios assez costauds. Mm-hmm. Et donc là c'est l'aventure du jeu de rôle pour Gérald de Rive.
Exactement. Alors c'est une histoire marrante parce qu'en fait l'éditeur original s'appelle R. Tarson Iron Game, qui est un éditeur historique aux États-Unis qui a fait le jeu de rôle cyberpunk dans les années 90, qui était très connu. Et en fait ils ont reçu un beau jour un mail d'une petite société polonaise qui voulait traduire cyberpunk, mais il y a très longtemps, et qui proposait genre $200 d'avance de droit pour faire le jeu. Et trouvant ça sympa, ils disent ok, ils font la licence du jeu, plus de nouvelles pendant 20 ans, et un beau jour ils reçoivent un mail un beau jour d'une petite société de jeux vidéo qui s'appelle CD Projekt Red et qui leur explique qu'en fait tous les gamins qui sont chez CD Projekt, qui sont tous des trentenaires, n'ont joué qu'à un seul jeu de rôle dans toute leur vie, le seul traduit en polonais, Cyberpunk, pendant 20 ans. Ils ont eu une seule édition à se mettre sous la dent et que leur rêve ça serait de bosser avec Mike Pondsmith, de faire Cyberpunk en jeu vidéo et tant qu'à faire de leur confier Witcher en jeu de rôle. Et donc l'aventure a commencé comme ça, et pour le jeu vidéo Cyberpunk et pour l'adaptation du jeu de rôle papier Witcher. Ça a été tout ça sur un petit mail 20 ans précédemment et une éducation d'une communauté polonaise à un seul jeu.
Donc c'est très intéressant. Ensuite, est-ce que The Witcher a quelques particularités comme jeu de rôle, à part l'univers qui commence à être connu, je pense, peut-être mécaniquement, ou est-ce que c'est un jeu plutôt tourné ambiance, tourné mécanique à la Donjons et Dragons,
plutôt narratif ou...
Alors c'est un jeu avec une mécanique assez importante parce que ça permet d'accompagner effectivement quelqu'un qui vient pas du jeu de rôle et d'avoir tout ce qui lui permettra de créer un personnage, etc. On est moins dans le narratif qui peut parfois laisser un vrai débutant un peu perdu sans savoir dans quelle direction aller. Sa grande force évidemment c'est le background. Voilà, les Pondsmith travaillent avec CD Projekt sur Cyberpunk, ils vont régulièrement en Pologne, connaissent très bien les créateurs du jeu vidéo Witcher, ont fait le stage de l'école de sorceleurs en Pologne, leur mère-fils tous les deux, donc ce sont les premiers geeks de Witcher, et donc ils mettent ça à disposition du public. Donc on a vraiment une gamme qui s'annonce comme étant vraiment un bel hommage hommage à l'univers, quoi. On n'est pas dans une adaptation où on pourrait des fois se sentir un peu perdu. C'est vraiment, voilà, ce qu'on appelle entre nous du fan service. Ils ont vraiment fait plaisir à leurs fans, à eux d'abord, parce que c'est des gros, un univers qu'ils aiment beaucoup. Et voilà, je pense que ça va vraiment plaire au public de Witcher.
Tu parles d'une gamme, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui sont prévues après juste le livre de base?
Tout à fait. L'écran a déjà été annoncé aux États-Unis, Lords and Lands. Il devrait voir le jour avant l'été en France. Et derrière, on sait, voilà, entre nous, qu'il y aura un bestiaire, un ouvrage sur les écoles de sorceleurs, qui est très attendu par les fans du jeu vidéo, parce que ça n'a jamais été fait. Évidemment, par les fans du jeu de rôle, parce qu'on veut tous jouer à sorceleur. Et il y aura après des sourcebooks, il y aura des c'est une gamme qui est prévue comme étant une gamme principale pour l'éditeur américain, qu'on suivra évidemment avec rapidité.
Il y a beaucoup des jeux que vous proposez qui sont justement proposés en financement participatif.
Tout à fait.
Et ce n'est pas le cas pour celui-là.
Tout à fait.
Pourquoi tu as fait un choix différent? Il y avait...
Alors, il y a plusieurs raisons à celle-là. Le financement participatif, on l'utilise principalement dans le jeu de rôle à l'heure actuelle pour limiter les risques qui sont liés à des gros ouvrages. L'exemple concret que j'ai en tête, parce qu'on est encore empêtré dedans, c'est Mage. Le livre de Mage fait 700 pages. On a 400 pages de suppléments qui ont été livrés avec le livre de Mage. Donc, 1200 pages, ça représente près de 5 millions de signes. En termes de traduction, c'est un an et demi de travail pour une équipe habituelle. Enfin, c'est impossible de le faire sans financement participatif. Witcher, c'est différent. Et après, il y a des questions de droit aussi qui peuvent se poser. Il y a des ayants droit qui sont sensibles à l'utilisation de leur marque. Star Wars, par exemple, refuse. Disney, enfin, voilà, Games Workshop. Tout ça, c'est des sociétés qui n'aiment pas qu'on fasse des financements participatifs sur leur marque, de peur de l'échec et donc de la nuisance sur la marque. Donc voilà, donc nous, on a pris la décision, au lieu de pousser, de demander, déjà, la marque est plus connue. On sait qu'on a une belle communauté derrière de joueurs qui l'attendent. Et voilà. Et puis, vis-à-vis des magasins, c'est bien de ne pas faire que du financement, de sortir des produits directement pour qu'ils soient les premiers à être servis. Donc, on essaye Star Trek, pareil, au sorti directement en magasin, sans financement.
Parce que tu penses que pour toi, le financement participatif, ça implique pas de magasin?
C'est difficile. Les magasins, les premiers acheteurs sont passés sur le financement.
Ouais, donc ça épuise le pool.
Voilà, les premiers acheteurs, les primo-achetants vont pas décider de se jeter en magasin. Les magasins prennent des plus petites quantités. Donc voilà, ça fait partie du jeu, on le sait. Donc il faut qu'on balance. Voilà, il y a des ajustements à faire. Et les gammes qui nous semblent risquées ou qui demandent des très gros investissements, on va privilégier une plateforme de financement. Ou alors des gammes qui s'y prêtent, avec beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses qui sont très compliquées à mettre en magasin. Je pense à un jeu qui viendra plus tard, qu'on n'a pas encore annoncé, mais qui a beaucoup de petits accessoires, des cartes, etc. C'est compliqué à mettre en magasin. Les accessoires, c'est pas la même TVA. Enfin, on crée tout un micmac. Le financement permet aux contributeurs acheter ce qu'il veut et d'avoir des cadeaux en plus, des choses comme ça. Et ça nous permet à nous de sortir des gammes un peu complexes, un peu difficiles à mettre en magasin de manière directe. Voilà. Donc il faut savoir faire un peu des deux. Donc on essaye maintenant voilà, on a d'autres jeux qui vont sortir directement en magasin. Je pense à Forbidden Lands qui est un petit coup de cœur qui arrivera bien plus tard dans l'année. Sortira directement. Voilà.
Alors on a vu que sur Cannes, il y avait pour la, je pense que c'est la première fois, une récompense qui s'appelle le Graal d'Or.
Tout à fait.
Et qui a récompensé un des jeux de votre gamme qui s'appelle Tales from the Loop.
Tout à fait, exactement.
Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment il a été sélectionné, comment est-ce que ça se passe, le processus de sélection, et nous raconter un petit peu la cérémonie peut-être?
Alors, le processus de sélection est assez simple. En fait, les éditeurs envoient leur produit au jury du Graal, qui est composé de professionnels. De mémoire, il y a la Fédération française de jeux de rôle, il y a le Graal, donc le groupement des associations rôlistes du Sud, il y a Philibert, enfin voilà, des prescripteurs, des gens qui connaissent le métier. Eux, ils ont shortlisté une sélection de jeux, et après il y a l'élection finale. J'ai pas les secrets de l'élection ou leur cuisine interne, mais je sais que voilà, on est un appel au produit et une sélection de professionnels. Et donc effectivement, Tales from the Loop a reçu le prix de la meilleure production internationale, à côté de très beaux autres jeux. Il y a Colonial Gothic qui a été récompensé pour la création française, et Pavillon Noir de chez Black Book qui a été récompensé en réédition.
C'est
donc il y avait un beau palmarès cette année. C'est la première édition, donc on espère qu'avec le temps on en aura de plus en plus, parce que je suis content pour le jeu de rôle qui est quand même une activité noble, d'écriture, voilà, ça demande quand même un bel investissement d'avoir un prix à Cannes notamment, et on espère qu'il y aura d'autres éditions, que de plus en plus d'éditeurs participeront et qu'on aura une sélection de plus en plus importante, et voilà, et que ça partira pour de longues années.
Je t'avoue que de toi à moi, j'ai galéré pour trouver les informations de l'existence du Graal d'Or, Avoir les résultats, en gros, c'est disponible que sur Facebook et voilà. Et niveau communication, ils ont, je pense qu'il y a encore,
il y a encore à faire. Enfin, c'est une première édition. Voilà, on a senti déjà pour l'annonce des suivants un peu plus de professionnalisation. Bon, après il y a l'organisation du Fige qui est là, enfin qui va être là pour les aider. Nadine Seul notamment qui a toujours bien aimé le jeu de rôle et qui a toujours essayé de l'intégrer au Festival des Jeux.
Bien sûr.
Avec la prédominance du jeu de plateau, elle a toujours essayé de nous laisser une place à nous, les éditeurs de jeux de rôle. Donc je pense que ça va, là, ça deviendra de plus en plus solide avec le temps. La cérémonie elle-même était, voilà, qualité Fige, habituée, plein de caméras, tout était bien calculé, tout était très, très agréable. Peut-être que voilà, un petit péché sur la communication. Nous, on était concernés, donc on l'a pas mesuré, je voyais pas si ça circulait, mais voilà, charge à nous, les éditeurs, d'en parler aussi pour que les joueurs le sachent.
Absolument.
Et de faire passer le mot pour aider Samy et toute son équipe qui ont fait quand même un gros boulot sur ce salon, qui organise des offres incroyables et des marathons de jeux de rôle. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils dorment. Donc voilà, une première édition, et puis on espérera d'autres jusqu'à ce qu'on finisse voilà, avec une belle cérémonie.
Eh ben, écoute, Mathieu, on te remercie beaucoup d'être venu.
Eh ben, merci à vous de m'avoir invité.
Ben, c'est assez rare qu'on ait.
Festival à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Chers auditeurs, chères auditrices, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee pour éventuellement financer d'autres festivals comme celui-ci. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.